Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Un podcast France Culture.
Merci de votre fidélité, Alexandra Delbeau.
Bonjour, Guillaume.
Avec science, ce matin, on s'intéresse au nez des insectes. Ils ont un gros nez et ils ont une olfaction, mais qui est perturbable.
Qui est perturbable, oui. C'est un enjeu essentiel. Au-delà de la simple recherche fondamentale, comprendre comment sont perçues les molécules odorantes par les insectes nous permettrait de détourner le fonctionnement des plus invasifs d'entre eux, moustiques, criquets ou sauterelles, par exemple. Et finalement, qu'on soit coléoptère ou Guillaume Erner, l'odorat... Pas du tout. C'est pas ce que je veux dire. L'odorat implique deux choses, un ligand et un récepteur. Le ligand, c'est une petite molécule odorante et le récepteur, c'est une grosse protéine où va venir se loger ce ligand. Et c'est cette liaison qui va ensuite permettre de déclencher toute une cascade de signalisation de neurone en neurone pour dire « Ah oui, j'ai bien senti quelque chose ». Ça, c'est ce qui nous rassemble au niveau odorat, les insectes et nous, mais ça s'arrête là. En réalité, l'olfaction des insectes et des mammifères a suivi deux chemins évolutifs bien différents. Jérémy Taupin est maître de conférence à l'Institut de chimie de l'Université Côte d'Azur à Nice et co-auteur de cette étude parue dans Nature Communications.
Ce qui est assez fascinant dans le monde de l'olfaction, c'est que la nature a inventé deux fois le mécanisme de l'olfaction. Donc on a deux systèmes qui sont différents, que vous soyez un mammifère ou soyez un insecte, mais qui ont le même but. Alors structurellement, la plus grande variation entre les deux, c'est que chez le récepteur olfactif chez l'insecte, c'est-à-dire qu'on a quatre sous-unités qui vont former un canal ionique comme un tuyau dans la membrane du neurone olfactif des insectes et permet en fait un échange entre l'extérieur et l'intérieur du neurone. Chaque sous-partie a une fonction particulière, c'est-à-dire qu'une sous-partie du récepteur va reconnaître les molécules odorantes et l'autre sous-partie va être plutôt impliqué dans la construction du récepteur, sa stabilité et l'ouverture du canal. Alors que chez les mammifères, on va avoir seulement une seule sous-unité, un récepteur, qui lui ne forme pas de canal, mais va permettre en fait une communication entre l'extérieur de la cellule et l'intérieur de la cellule.
La différence dans l'olfaction des insectes et des mammifères, c'est que les mammifères, c'est avec un seul morceau de protéine, alors que chez les insectes, il y a quatre morceaux. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir pour l'instant. Et on repart avec ça. Dans ces quatre parties du récepteur, il y en a une qui se lie à l'odeur et une autre qu'on appelle le co-récepteur, qui sert plutôt d'échafaudage. C'est le schéma qu'on dirait un petit peu classique, mais ce qu'on veut, c'est voir et comprendre ce qui perturbe tout cela, ce qui sort un peu de la normale. Et il y a une dizaine d'années, a été découvert un ligand, une petite molécule qui perturbe un peu l'olfaction et qui se lie non pas à la partie récepteur de l'odeur, mais à la partie échafaudage. Pourquoi? On ne sait pas. Mais la question qui nous intéresse ici, c'est surtout comment. Parce que le ligand ne devrait pas pouvoir rentrer et ne pas se lier au co-récepteur. Il est trop gros, il n'a pas la bonne forme pour rejoindre le site de liaison facilement et doit s'enfoncer très profondément pour le faire. Alors, ce qu'a voulu faire cette étude, c'est comprendre comment ce ligand parvient à faire de la spéléo. Pour cela, impossible d'aller regarder ce qu'il se passe en direct, donc ces scientifiques ont créé une sorte de microscope computationnel, un microscope simulé à l'aide de modèles numériques pour aller voir à l'échelle atomique comment ce ligand parvient à atteindre sa cible et ils ont ensuite confirmé leurs observations avec des expériences in vitro. Résultat, les deux éléments, ligand et co-récepteur, se contorsionnent ensemble.
C'est un processus dynamique qui se passe dans lequel le récepteur va changer de forme pour créer un chemin. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est à la fois le ligand qui, lors de son entrée dans la protéine, va pousser certaines parties du récepteur pour vraiment se frayer un passage. Et donc ici, on a une combinaison d'interactions plus ou moins fortes qui vont permettre le déplacement du ligand dans la protéine. C'est un petit peu comme un phénomène de cliquet où on a des sauts, c'est-à-dire que le ligand va sauter d'une marche à l'autre pour passer d'une petite cavité à une autre et doit pousser des parties du récepteur pour pouvoir passer d'un état à l'autre. Donc c'est vraiment un phénomène de saut où on a plusieurs petites cavités et le ligand va sauter de l'une à l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans différents autres types de protéines. Mais ici, c'était la première fois qu'on observait ce passage du ligand à travers notre récepteur.
L'enjeu à présent, c'est de créer des molécules encore plus volatiles que ce ligantesque et surtout non toxiques pour envisager un moyen de lutte contre certains insectes sans perturber l'ensemble de la biodiversité.
Merci beaucoup, Alexandra Delbault.